Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 12. Il y a bien des affaires qui se passent sur le campus. On est là pour t'aider à suivre tout ça. Le 12.
Ça part ici.
On retrouve maintenant Natacha Gay Marchand. Gay. Hey, je suis tellement pourri avec ton nom. Je le scrape une fois sur deux, je m'excuse, mais ça va bien quand même.
Ça va très bien, merci.
On parle aujourd'hui des articles qui ont été publiés dans le collectif dans l'édition de cette semaine.
Oui, cette semaine.
Là, il y a peut-être un article spécial d'entrée de jeu parce que c'est arrivé pas mal flush avec la date de tombée, mais c'est évidemment le décès de Carl Tremblay des Cowboys Fringants.
Exactement. On a perdu une âme qui était précieuse ici au Québec, qui était le chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, qui est mort suite à un 4 ans de combat avec le cancer de la prostate. Donc c'est vraiment triste, c'est vraiment malheureux. C'est un chanteur qui a marqué le Québec par ses paroles, par sa prestance, son courage, puis c'est vraiment quelque chose de gros qu'on a perdu.
Ouais, ben tout le monde, n'importe qui fait un hommage à Carl Tremblay là, depuis mercredi dernier, là, c'est fou, même des affaires qui n'ont pas de bon sens, même des fois, là, tout le monde veut y rendre hommage, mais ça marque un peu l'influence qu'il avait, ou en tout cas, juste l'impact qu'il avait au sein du Québec ici. Moi, ce qui m'étonne surtout, là, je t'avoue, c'est que j'ai pas vu vraiment de post. Je sais pas comment dire, là, mais parce qu'on est dans le Movember, qui en théorie est pour justement conscientiser les gens et ramasser de l'argent pour le cancer de la prostate. On dirait que ça m'étonne que j'aie pas vu plus d'appels à, je sais pas, à financer la recherche au Movember et tout. Là, je crois qu'on est, c'est peut-être encore trop émotif pour l'instant, mais comme ça. Ben, je veux pas dire que ça donne bien, mais tu sais, c'est un impact quand même assez fort.
Moi, ça aurait pu révéler certaines cloches dans la tête des gens, mais non, non plus, j'ai pas vu ça passer dans mon feed. On fait des pleins d'hommages qui est fait.
Ben, c'est ça, ben oui.
Mais pas ça.
Non, c'est ça. Fait que, mais donnez pour la cause. Là, si vous poussez la moustache, en tout cas, je sais pas trop, mais tu sais, ceux qui continuent à ramasser de l'argent, mais continuez à le faire. Puis, c'est ça, c'est très criant c'est ça. À quel point on a besoin, justement, de financer ou en tout cas de trouver des traitements, parce que il y a différents types de cancers de la prostate. Le sien était un peu plus virulent, qui s'est attaqué à la moelle épinière, et puis en tout cas, qui est venu avec justement les traitements ineffectifs. En tout cas,
Essayé un premier traitement, ça n'avait pas fonctionné, il y en aurait essayé un autre. Je pense que c'est des traitements qui l'ont plus usé en termes d'énergie, qui ont finalement.
Qui ont rallongé un peu sa vie, mais tu sais, ça restait un plaster sur une fracture ouverte, là.
Exactement.
Fait que c'est ça. Mais on salue son courage, et puis on voit là, dans les charts de Apple Music et tout que les Cowboys, je pense, sur le top 25 des chansons les plus écoutées.
Je suis coupable aussi de ça, je me sentais très nostalgique. Je suis allée réécouter ses paroles des Cowboys Fringants, puis ça prend tout un autre sens maintenant qu'il est décédé. Les paroles qui dit. C'est une étoile filante, tu perds ta vie à gagner du temps pour finalement devenir une étoile filante, et maintenant on le regarde sous un autre regard.
Ça va être très émotif, c'est certain. Voilà, on passe maintenant à un événement qui... un événement. La grève, en fait, du Front commun, qui s'amorce demain pour 3 jours.
C'est ça. Donc, le secteur public est en grève depuis... il y a eu une première grève le 6 novembre, et là, il va en avoir une autre pour 3 jours, comme tu disais. Donc, la convention collective du secteur public est échue depuis le mars dernier. Et donc, ils sont en œuvre pour mettre de l'avant les négociations avec le gouvernement. Puis le gouvernement n'a pas l'air de proposer des solutions qui sont satisfaisantes, du moins, pour le Front commun des syndicats.
Ouais. Donc, et malgré tout, ils donnent du cash à une équipe de hockey qui vient, qui vient à Québec. On n'est pas là pour faire un éditorial à deux scènes, mais est-ce qu'il y a un nombre de grèves générales illimitées qui planent ou pas encore? On n'est pas là.
Pas de ce que j'ai lu. Par contre, il y a une proposition qui a été donnée par le gouvernement qui était de hausser le salaire de 10,3% sur 5 ans. Puis ça a été vivement critiqué par les syndicats qui disaient que c'est pratiquement une insulte parce que selon eux, ça vient même pas... ça vient même pas jouer avec l'inflation qui va augmenter, donc c'est vraiment pas suffisant. Puis il y a aussi d'autres critiques qui ont mis de l'avant, dont le fait qu'il faudrait revoir la priorité quand vient le temps d'employer des nouvelles personnes au sein du secteur public, puis évidemment les conditions de travail.
Ouais. Est-ce qu'il y a des... Parce que là, c'est ça, c'est évidemment les conditions salariales, c'est ce qui est au cœur pas mal du problème de la convention collective, mais c'est un autre problème qui... qui est relié à ça, mais pas tant, c'est la pénurie de main-d'œuvre, surtout dans le secteur,
santé,
c'est ça, éducation, qui représente une grosse partie, une grosse proportion du Front commun. Mais est-ce qu'il y a des discussions par rapport à ça sur des moyens d'action ou si ça rentre pas vraiment dans les revendications du Front?
Ça rentre dans les revendications, mais à quel point les négociations avancent, ça, c'est une bonne question.
Ouais, non, c'est ça. Fait que, à suivre. On va espérer. Ben, on est évidemment de tout cœur avec ces gens qui évoluent dans le domaine de la santé et de l'éducation parce que c'est pas mal les piliers de notre société. Puis,
exactement.
Il faut les valoriser à leur juste titre. On poursuit avec les relations indo-canadiennes. Qu'est-ce qui se passe, là?
C'est la question que tout le monde se pose, en effet. Mais dans le fond, je pense que tu le savais, que l'Inde, après un incident par rapport à une enquête sur l'Inde qui aurait contribué à un crime par rapport à le meurtre d'un indépendantiste sikh en Colombie-Britannique l'été dernier. Mais là, ouais, ça avait fait bien des problèmes. Et là, l'Inde avait refusé d'accorder n'importe quel visa à toute personne ici du Canada pour aller en Inde. Puis elle avait aussi jeté dehors les diplomates canadiens. Et là, récemment, elle a dit qu'elle recommencerait à établir des visas pour les citoyens canadiens pour aller en Inde. Faut comprendre que ça reste encore restreint. C'est pas tout le monde qui peut appliquer pour un visa, puis c'est encore compliqué, mais il y a une certaine ouverture. Donc, est-ce que cette ouverture-là signifie un rapprochement indo-canadien? Je pense à nuancer, parce qu'il faut pas manger l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est ça l'expression?
Ouais, quelque chose comme ça.
Quelque chose de même.
Mais qu'est-ce qui explique, selon toi, cette réouverture-là? Est-ce que c'était juste un coup médiatique de renvoyer les diplomates, puis c'est ça, de barrer littéralement ses frontières, ou s'il y a eu du développement par rapport à cette situation-là?
En fait, je pense que l'Inde est comme tannée de plusieurs choses, de plusieurs actions que le Canada fait. Puis ça, c'est une façon peut-être de montrer que là, à un moment donné, ça suffit.
Mm-hmm.
Puis peut-être un coup diplomatique, mais je pense qu'il y a aussi des raisons qui sont plus profondes derrière ça. Mais on peut penser que la relation indo-canadienne est quand même très bien établie. Elle est là depuis plusieurs années. Il y a le commerce aussi là-dedans. Il n'y a pas juste les relations diplomatiques. Donc, il doit y avoir aussi des raisons économiques derrière, mm-hmm, des raisons commerciales.
Ça en fait pas mal de conflits diplomatiques dans les dernières années, avec la Chine aussi, avec les réseaux sociaux, en tout cas les GAFA, ou je ne sais plus trop comment on appelle ça, là, mais GAFAM, en tout cas, c'est plus Facebook. Là, mais bref, c'est ça, ça fait pas mal de conflits diplomatiques en peu de temps, mais c'est pas grave. On est quand même... les gens nous trouvent smart pareil, fait que c'est correct. Puis on termine avec politique internationale un petit peu, mais qui nous concerne, là, donc le marché du carbone.
Oui, en effet. Donc avant de commencer, le marché du carbone, il faut comprendre que c'est un système d'émission qui met un plafond à l'émission de gaz à effet de serre. Puis c'est comme un droit d'émission de gaz à effet de serre qu'on donne aux entreprises, plutôt qu'on vend. Les entreprises ont le droit d'acheter et de revendre ces droits d'émission-là. Et à long terme, ça diminue. Donc, le but en faisant ça, c'est de favoriser, de contraindre les entreprises à chercher des façons de trouver des manœuvres plus vertes pour avancer, d'innover, bref. Et là, le marché de carbone du Québec et de la Californie ont été fusionnés en 2014. Et Washington songe très fortement à rejoindre le marché de carbone de Québec et Californie.
Puis, est-ce qu'on a quelque chose à y gagner, nous? Parce que, tu sais, essentiellement, est-ce que c'est une manœuvre des États-Unis pour continuer à polluer, mais piger dans la banque de quelqu'un d'autre? Ou c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour le Québec? Mais là, c'est vraiment le marché québécois et non canadien?
Québécois,
OK.
Donc, le truc qu'on a gagné, je pense, c'est peut-être pas nécessairement... Il doit
l'argent.
Tout le temps à l'économie, mais plus que ça, au-delà de l'économie, il y a aussi les enjeux du changement climatique. Le Québec et le Canada en général, c'est un précurseur qui lutte énormément pour les changements climatiques. Puis je pense que ça nous tient à cœur, ça fait partie de nos valeurs. Et de mettre ça de l'avant avec d'autres partenaires vient augmenter un peu notre influence, puis vient un peu dire qu'on... C'est ça, d'affirmer notre place, je pense.
Ouais. Reste à voir. C'est sûr que c'est pas le premier partenariat du genre. Hydro-Québec aussi a des partenariats avec la Nouvelle-Angleterre, mais tu sais, de l'échange d'électricité et tout, qui sont sommes toutes profitables. Il y en a quand même qui critiquent parce qu'ils disent qu'on donne notre ressource renouvelable. Ouais, c'est ça. Reste à voir parce que c'est ça. La crise énergétique, ben pas énergétique, mais les changements climatiques sont là pour rester. Puis reste à voir si les États-Unis veulent juste patcher ou mettre un plaster justement sur pour aller chercher quelques. Je sais pas, millions de tonnes ou en tout cas de carbone.
Aussi, ouais, c'est ça. Que, premièrement, il faut que la Californie et que le Québec acceptent cette demande-là. Ensuite de ça, il y a plein de procédures législatives, réglementaires à voir. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, il va falloir voir les négociations au cours des prochains mois.
Ouais, donc à suivre. Puis c'est sûr que toutes ces questions de carbone-là aussi, ça va être dans une éventuelle. Ça va être des débats à avoir dans une éventuelle. Campagne électorale, on sait que. On parle du marché québécois, là, mais on sait que Pierre Poilievre est très contre la taxe du carbone. Et puis, il va avoir, si jamais il y a un changement de pouvoir, là, c'est sûr que ça pourrait chambouler le tout. Mais ouais. Pour l'instant, on fait belle figure encore ici au Québec. Fait qu'on va espérer que ça perdure. Donc, vous pourrez trouver des articles sur ces sujets et bien plus dans le nouveau numéro du collectif qui est disponible en ligne au. Lecollectif.ca? Je me souviens plus si c'est le journal, le collectif. Je pense que c'est lecollectif.ca. Donc, Natacha, merci beaucoup d'être venue me parler aujourd'hui.
Merci à toi.